Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Nous faisons le point sur l'actualité scientifique. Tous les samedis sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé grâce au podcast et également la rediffusion de cette émission le mardi matin à 10h sur l'antenne de Graphite. Nous sommes déjà le 30 mars. Ça passe très vite. Pas de journée internationale pour ce 30 mars. Reste à trouver donc une thématique pour ce 30 mars, on verra bien. En tout cas, au niveau de l'éphéméride, le 30 mars 1842, l'éther est utilisé pour la première fois comme anesthésique par un médecin américain, le docteur Crawford Lang. C'était en 1842. Et le 30 mars 1907, à Billancourt, Gabriel Voisin vole sur 60 mètres sur un biplan de sa fabrication équipé d'un moteur de 5 chevaux. En 1907 déjà, vous voyez, c'était un 30 mars. Des naissances, eh bien la naissance de Elena Vladimirovna Kondakova. Elle est cosmonaute russe. Elle est née le 30 mars 1957. Elle est la troisième femme soviétique à voyager dans l'espace et la première femme à effectuer un vol de longue durée. Son premier voyage dans l'espace se déroula sur Soyouz. C'était en 1994. Elle est revenue sur Terre après un séjour de 5 mois dans la station spatiale Mir et elle est retournée pour un deuxième vol comme spécialiste de mission sur la navette spatiale Atlantis. Cette fois, c'était en 1997. Bon anniversaire, Elena. Elle est donc née le 30 mars 1957. Elle a donc 62 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à vous, Elena Kondakova. Un décès le 30 mars 1949 de Friedrich Karl Rudolf Bergius. C'est un chimiste allemand. Il est co-lauréat du prix Nobel de chimie de 1931. En fait, c'est le fils d'un industriel de la chimie, donc il a baigné quand même dans ce domaine-là tout petit. Et en parallèle de ses études, Friedrich Bergius passe beaucoup de temps dans l'usine de son père, ce qui lui permet donc de devenir familier de nombre de procédés de l'industrie chimique. En 1903, il étudie la chimie à l'université de Breslau, puis en 1905 à l'université de Leipzig, d'où il sort diplômé avec une thèse sur l'utilisation comme solvant de l'acide sulfurique. Il travaille sur les équilibres chimiques dans les réactions en phase gazeuse et il développe une méthode permettant des synthèses en laboratoire jusqu'à des pressions de 300 atmosphères, ce qui est quand même assez important. Il enseigne à l'Université technique de Hanovre, mais sa carrière est interrompue par la Première Guerre mondiale. En 1913, il tente de transformer le bois en charbon, mais n'y parvient pas. Il met également au point un procédé pour obtenir du sucre à partir de la cellulose du bois. Il émigre en Argentine après la Seconde Guerre mondiale. Il a reçu donc un grand nombre de distinctions et donc ce prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la chimie à haute pression. Friedrich Karl Bergius, il est donc né en 1884 et donc mort un 30 mars, le 30 mars 1949 à Buenos Aires, parce que voilà, il est émigré en Argentine à la fin de sa vie. Ça, c'est l'éphéméride. Concernant notre petite tradition maintenant en 2019, à savoir à l'occasion de l'année internationale qui consacre l'année 2019 comme étant l'année du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, eh bien, toutes les semaines, nous remplissons une petite case de ce tableau qu'on a tous connu dans nos salles de classe et on va parler du titane aujourd'hui. Le titane qui est reconnu pour sa résistance physique et chimique ainsi que pour sa faible masse volumique. En fait, sa résistance mécanique, elle est supérieure à celle de l'acier. Sa température de fusion, elle est supérieure à celle du fer. Et sa température de fusion, c'est presque 1670 degrés. Alors effectivement, c'est une température assez importante et il résiste également le titane à la plupart des formes de corrosion. Ses utilisations sont donc variées. L'industrie aérospatiale et aéronautique utilise le titane dans la construction de pièces capables de résister au mélange d'hydrogène, d'oxygène. Il est également retrouvé dans le domaine biomédical parce qu'il est biocompatible, c'est-à-dire qu'il est compatible avec nos tissus humains, c'est ça qui est intéressant. La chimie industrielle se sert de sa résistance chimique pour fabriquer des réacteurs de raffinerie. Le domaine militaire utilise cet élément et sa résistance physique pour les blindages, c'est quand même intéressant, et sa résistance à la corrosion, sa biocompatibilité, sa légèreté aussi, sa capacité à être mécaniquement résistant font du titane un métal vraiment idéal pour la fabrication de prothèses. En fait, la découverte du titane, elle a été effectuée en plusieurs étapes. En 1791, William Gregor analyse du sable noir et découvre qu'il est composé d'oxyde de fer et d'un autre oxyde inconnu qu'il va nommer ménatchin. On va savoir pourquoi. Et Martin Kaprow analyse 4 ans après un nouveau minéral ayant les mêmes caractéristiques de ce fameux ménatchin. Il va le nommer titane, d'après les titans de la mythologie grecque, pour la résistance. Ce minéral est aujourd'hui connu sous la forme de rutile, qui est un oxyde de titane, et ce n'est qu'en 1825 qu'on va être capable d'isoler enfin cet élément. Son symbole chimique, c'est le T. I pour titane, c'est simple. Et le numéro atomique, c'est le 22. On a donc rempli la case 22 aujourd'hui dans ce tableau périodique des éléments. On va parler de Microsoft aujourd'hui. On va parler également de la pollution de l'air. On va parler de l'espace. On va parler d'un supercalculateur. On va parler d'un virus également qui ressemble à Ebola qui a été découvert en Chine. Bref, vous l'avez compris dans cette émission. Plein de thématiques différentes dans cette émission de Biotine, l'émission sur l'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine, émission de science, mais également émission musicale, parce qu'il n'y a pas de raison. Sur Graphite, on écoute toujours de la musique. Cascade, c'était Eiffel sur l'antenne de Graphite. L'actualité scientifique, c'est ce que vous propose cette émission Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, que ce soit sur internet avec graphite.net ou sur la bande FM, le 94.9. Vous savez également que vous pouvez suivre l'actualité de Graphite sur la page Facebook ou en suivant le fil Twitter également. Donc n'hésitez pas, comme ça vous êtes informé de toutes les informations et partenariats également organisé par Graphite, n'hésitez pas. Pour cette émission Biotine, on va s'intéresser aux filovirus, des agents infectieux qui doivent leur nom à leur aspect filamenteux et qui sont à l'origine de graves fièvres hémorragiques comme Ebola par exemple. On en comptait jusqu'ici 8 espèces nommées d'après leur lieu d'origine, notamment le Zaïre par exemple, mais voilà que des chercheurs de l'école de médecine de Singapour viennent d'en découvrir une nouvelle souche chez une chauve-souris en Chine. C'est en effectuant des séquençages génétiques et des études de caractérisation des filovirus chez des chauves-souris que les chercheurs ont pu identifier ce nouveau virus qui est nommé Mengla, du nom du district de la province au sud de la Chine où il a été retrouvé. Il s'agit d'un nouveau genre de filovirus. Cette nouvelle catégorie est donc assez étonnante parce qu'on ne l'avait pas du tout identifié. Le virus Mengla ne partage qu'environ la moitié de son matériel génétique avec les autres filovirus, mais partage plusieurs similitudes fonctionnelles le rapprochant donc des virus Ebola par exemple. Et il code en fait comme eux pour 7 gènes et utilise le même récepteur moléculaire, une protéine spéciale que le virus utilise pour pénétrer dans la cellule et provoquer une infection. De plus, il est susceptible de se répliquer avec d'autres séquences génétique d'Ebola, ce qui pourrait aboutir à la formation de nouveaux virus. Les chercheurs ont testé donc ce virus Mengla sur des lignées cellulaires de différentes espèces, l'homme, le singe, le chien, le hamster et la chauve-souris, et ils ont constaté que, comme les autres filovirus, il présente un risque potentiel de transmission inter-espèces. Le virus Mengla n'a pour l'instant été détecté que chez la chauve-souris du genre Roussette, qui constitue d'ailleurs le réservoir principal de la plupart des filovirus. Mais si l'infection parvenait effectivement à l'homme, elle pourrait avoir des conséquences dévastatrices, c'est ce qu'affirme le professeur Wang Lingfa, l'auteur principal de cette étude, publiée dans la revue Nature Microbiology. Rappelons que la fièvre Ebola est l'une des maladies les plus mortelles au monde, avec un taux de 50 à 70% chez les patients atteints et une très forte capacité contagieuse. L'épidémie de 2014 à 2016 en Afrique de l'Ouest a ainsi causé plus de 11 000 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Jusqu'à présent, la Chine n'a pas encore été touchée par une telle épidémie, mais le pays semble bien être un nouveau foyer de virus infectieux. La souche y a ici été repérée également chez des singes et des porcs. Avec l'essor de la mondialisation, l'identification précoce des virus est essentielle dans l'identification et la prévention du risque de maladies infectieuses. C'est ce qu'explique donc ce chercheur. En juillet 2018, donc l'année dernière, un nouveau filovirus de type Ebola qu'on avait nommé Bombali avait déjà été découvert en Sierra Leone chez 2 espèces de chauves-souris. Et donc on pense que nous allons encore voir de nombreuses familles de virus émerger de l'étude des chauves-souris. Mais voilà, un virus ressemblant donc à Ebola découvert en Chine, c'est une découverte importante et inquiétante bien sûr, et à suivre de près. Ensuite, autre article, mais là il n'y a aucun rapport. Ça concerne Microsoft qui vient de franchir une nouvelle étape dans son projet de connexion sans mot de passe. C'est Windows 10 qui va accepter des comptes Microsoft créés sans mot de passe. Les utilisateurs pourront s'identifier avec un compte d'utilisateur en fournissant uniquement leur numéro de téléphone. Le système enverra simplement un code de confirmation par un SMS lors de la première connexion à l'ordinateur et par la suite, l'utilisateur devra utiliser Windows Hello pour créer une identification par reconnaissance faciale, par empreinte digitale ou alors avec un code PIN qui sera utilisé au quotidien. À noter qu'il est déjà possible de créer un compte d'utilisateur sans mot de passe, mais il s'agit uniquement d'un compte local, plus limité bien sûr. La fonctionnalité est apparue dans la version bêta de Windows 10 et cette version de Windows 10 devrait être proposée au grand public sous forme de mise à jour à partir du mois d'avril, donc à partir de demain en clair. Cette nouvelle fonctionnalité se base donc sur un compte Microsoft entièrement dénué de mot de passe, mais le géant de l'informatique impose tout de même une configuration minimale. Un lecteur d'empreintes digitales, par exemple, ou une webcam pour la reconnaissance faciale, donc il va falloir peut-être acheter du matériel. C'est bien conçu quand même tout ça. Quant au smartphone, il est indispensable pour créer un compte Microsoft sans mot de passe, puisque cette option n'est pas proposée par le site web. Depuis, une application Microsoft comme Word ou sur Android ou aussi sur l'Apple Store, eh bien, il faudra donc saisir un numéro de téléphone pour se permettre de connecter. Et puis comme ça, on pourra recevoir un SMS qui va contenir un code de confirmation. Et c'est ce code qui servira de mot de passe. C'est ça, donc, la nouveauté. Il n'y aura plus de mot de passe particulier qu'on pourra identifier. Alors, c'est vrai qu'à force des mots de passe, on n'arrive plus à les suivre, parce qu'en plus, il faut les changer régulièrement. On a une liste faramineuse de mots de passe. Et donc, voilà, c'est l'avenir. Maintenant, ça sera par empreinte digitale ou par reconnaissance faciale pour pouvoir utiliser son ordinateur. Quand ça va être des ordinateurs de bureau, ça va être sympa tous ensemble le matin quand on arrive au bureau de faire une petite reconnaissance faciale par webcam. Je sais pas ce que ça va donner, on aura intérêt à avoir une bonne tête tous les jours, en tout cas avoir la même tête tous les jours, à faire, à suivre bien sûr. Allez, on écoute Tender sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après pour continuer à feuilleter l'actualité scientifique.
Find a cause we love.
And Man Ego, ça fait partie du dernier album de Telder qui s'appelle Fear of Falling Asleep. Sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et vous avez bien raison. Nous allons continuer de feuilleter l'actualité scientifique dans cette émission et s'intéresser à l'augmentation de la production de plastique qui est à l'origine, on le sait, d'une pollution inquiétante. D'après un rapport de l'ONU l'année dernière, on apprenait que 13 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans chaque année. Le plastique que nous utilisons au quotidien se dégrade en particules de microplastique qui s'infiltrent partout dans les océans, dans l'eau douce et jusque dans notre chaîne alimentaire. Les scientifiques sont en quête de matériaux alternatifs pour remplacer ce plastique trop polluant. La solution pourrait se trouver dans la nature et plus précisément dans les océans. Deux chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie étudient dans un article de synthèse qui a été publié il y a quelques jours le potentiel d'une protéine issue des dents du calmar, les calamars qui possèdent dans certaines ventouses des dents en forme d'anneaux qui leur servent à agripper les proies, et ces dents ont attiré l'attention de la communauté scientifique il y a quelques années. Il y a des chercheurs de l'Université technologique de Singapour qui analysaient déjà en 2016 leurs propriétés. La protéine peut être utilisée pour faire des biopolymères sous forme de fibres ou de films, et les protéines utilisées peuvent s'associer de façon diverse au niveau moléculaire, et en fonction de la forme qu'elles prennent, elles ont des caractéristiques différentes. L'élasticité, la flexibilité, la force, les propriétés optique, la capacité d'autoréparation. Bref, les matériaux dérivés ont des propriétés vraiment intéressantes pour l'industrie et les essais n'ont pas dépassé le stade de prototype, mais les usages potentiels sont prometteurs. Alors comment se procurer cette matière première ? Eh bien, il n'y aura pas pour cela de massacre de calmar. Le nouveau matériau est inspiré des animaux, mais il est produit en laboratoire. Il est possible en effet de modifier génétiquement des bactéries pour qu'elles produisent justement cette fameuse protéine. L'auteur de l'étude, Melik Demirel, explique dans un article... Excusez-moi. L'auteur de l'étude, Melik Demirel, explique dans un article publié dans la revue Frontiers, il explique que le processus est basé sur la fermentation et utilise du sucre, de l'eau et de l'oxygène pour produire des polymères. La production serait donc moins nocive pour l'environnement que celle du plastique et les produits sont biodégradables, ce qui limiterait donc la production de déchets plastiques. Les chercheurs proposent de nombreuses pistes d'utilisation. Le substitut au plastique pourrait être utilisé dans la couche supérieure des vêtements. Par exemple, il est résistant au frottement, ce qui protégerait les vêtements dans les machines à laver, et donc la quantité de microfibres synthétiques relâchées dans les eaux usées. Le matériau pourrait servir à fabriquer des vêtements intelligents, capables de protéger des polluants de l'air ou de surveiller l'état de santé de celui qui les porte. En médecine, il y a aussi des applications intéressantes. Il y a des protections contre les produits chimiques ou biologiques qui pourraient exploiter donc les capacité d'auto-régénération de ce polymère. Il y a des applications également dans le domaine de la photonique qui sont également prévues parce que les matériaux ont des propriétés optiques vraiment intéressantes. Bref, les protéines du calmar peuvent être utilisées pour produire la nouvelle génération de matériaux dans des domaines très variés comme l'énergie ou la biomédecine ou le domaine de la sécurité et de la défense. Mais voilà, on va pouvoir remplacer le plastique par des dents de calamar. Eh oui, bon, on l'aurait pas cru, mais finalement, le calamar peut être intéressant et pas uniquement dans l'assiette apparemment. C'est donc cet article très récent qui a été publié et qui donne vraiment des pistes assez prometteuses et assez intéressantes. On va suivre cela. Autre sujet, on va s'intéresser à ce qui s'est passé il y a assez longtemps, il y a 66 millions d'années. Il y avait un astéroïde qui s'écrasait sur notre Terre, qui a entraîné la disparition des dinosaures. Et il portait en lui cet astéroïde de l'iridium, qui est un métal extrêmement rare à la surface de notre planète, mais qui se trouve toutefois en abondance dans le noyau de la Terre. Et c'est ce métal que comptent aujourd'hui s'appuyer des scientifiques de l'université de Warwick au Royaume-Uni pour tuer des cellules cancéreuses. En fait, ils ont mis au point un composé à base d'iridium qui semble constituer un meilleur photosensibilisant que ceux employés jusqu'alors dans le cadre des thérapies photodynamiques. Alors le principe, c'est qu'on va activer par la lumière ces composés qui vont produire des agents oxydants qui vont être capables d'éliminer les cellules cancéreuses. Alors, le problème, c'est qu'il faut réussir à pouvoir cibler tout ça. Et donc, les chercheurs de l'université de Warwick sont parvenus à lier l'iridium, donc ce métal extrêmement rare qui est intéressant, et ils l'ont lié à de l'albumine, qui est donc une protéine présente dans notre sang. Et ceci leur a permis d'introduire l'ensemble jusque dans les noyaux des cellules à détruire. Et puis là, on fait une irradiation à la lumière visible seulement, et donc le composé a produit un oxygène toxique qui a été fatal aux cellules cancéreuses. Alors pour l'heure, les travaux des chercheurs britanniques n'en sont qu'à un stade très précoce, mais si cette technologie peut être traduite en clinique, eh bien, elle pourrait se révéler efficace contre les cancers résistants et réduire les effets secondaires de la chimiothérapie. C'est ce que commente le professeur Peter Salder, qui fait donc partie de cette équipe de chercheurs du Royaume-Uni, Université de Warwick, qui donne donc voilà, une piste intéressante et utile contre le cancer. Et donc, on utiliserait ce métal rare qui était au départ à l'intérieur de cet astéroïde tueur de dinosaures. Voilà, c'est deux informations assez intéressantes et assez prometteuses qu'on suivra bien sûr dans les mois et les années à suivre, bien évidemment. Allez, on continue d'écouter un peu de musique dans sur cette antenne et on se retrouve juste après pour continuer à nous intéresser à ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier.
Holy monsters.
Pixies, Seals and Fairies, ça fait partie du dernier album de Pyjama, Nice to Meet You, sur l'antenne de Graphite. On continue donc de feuilleter l'actualité scientifique dans cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net sur internet, que ce soit en direct ou en différé, bien sûr, en ayant la judicieuse idée de pouvoir télécharger les podcasts d'ensemble des émissions de Graphite. Vous avez également la possibilité de nous écouter le mardi matin à 10h lors de la rediffusion de cette émission. En 2018, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, déclarait que le cancer du col de l'utérus était un problème de santé publique. Pardon, je vais y arriver. Il est le quatrième type de cancer le plus répandu chez les femmes. 570 000 nouveaux cas ont d'ailleurs été diagnostiqués dans le monde entier en 2018. Dans une étude de paru il y a quelques jours dans la revue spécialisée The Lancet Oncology, une équipe internationale s'est intéressée aux conséquences d'une hausse drastique du nombre de vaccinations contre le papillomavirus humain, dont l'infection est bien souvent l'origine de cette maladie, mais aussi d'une augmentation des dépistages. Les chercheurs en ont déduit le nombre de cancers qui pourraient alors être évités entre 2020 et 2069, et ils ont également prévu l'évolution du nombre de cas après cette période. Alors, comme le rappellent les auteurs de l'étude, l'OMS a appelé à une action mondiale pour renforcer la vaccination, le dépistage et le traitement du précancer et la détection précoce ainsi que le traitement rapide de cancers invasifs. Et dans les pays à revenus élevés, eh bien, le frottis cervico-vaginal permettant la détection du cancer du col de l'utérus est assez répandu, le vaccin est accessible. Mais ces soins sont loin d'être communs dans tous les pays, et si c'était le cas, alors à partir de quelle année serait-il possible de dire que le cancer du col de l'utérus n'est plus un problème de santé publique ? Eh bien, les chercheurs ont donc défini deux seuils. Celui du cancer rare, qui équivaut à peu près à 6 nouveaux cas pour 100 000 femmes par an, et un autre plus ambitieux de 4 nouveaux cas pour 100 000 femmes, traduisant une quasi-élimination de la maladie. Et grâce à l'analyse de statistiques de données qui proviennent du Centre international de recherche sur le cancer et à une modélisation qui a été effectuée, les chercheurs ont pu simuler les tendances à venir concernant l'évolution du nombre de cancers du col de l'utérus. Et d'après leurs résultats, une couverture vaccinale entre 80 et 100% d'ici à 2020 pourrait éviter plus de 7 millions de cancers dans la période 2020 à 2069, et deux dépistages par personne, c'est-à-dire l'un à 35 ans et un second dépistage à 45 ans, notamment dans les pays qu'on va appeler les pays à revenus intermédiaires, ça pourrait éviter presque 6 millions de cas supplémentaires. Donc au total, on en est à près de 13 millions de personnes qui pourraient être épargnées dans les prochaines 50 prochaines années. Toujours selon cette étude, une hausse rapide des mesures de prévention dès 2020 conduirait à une chute du nombre de cas dans les pays qui possèdent un indice de développement humain très élevé. Alors ça, c'est des statistiques. En fait, c'est les pays très très développés, les États-Unis et la France. Ils franchiraient le palier justement important de ces moins de 4 cas pour 100 000 personnes. Ce seuil sera atteint par la suite par les pays possédant un indice de développement humain élevé, la Chine, le Mexique, puis ensuite l'indice de développement humain moyen, j'adore indice de développement humain moyen, le Vietnam et l'Inde, et ensuite les autres pays. Ainsi, des pays comme l'Éthiopie ou encore Haïti atteindraient 6 cas pour 100 000 personnes à la fin des années 2080 et 4 cas sur 100 000 personnes à la fin du siècle. Bref, ce qui serait intéressant, c'est qu'on prédit la disparition du cancer de col de l'utérus à la fin du siècle. C'est quand même assez intéressant et assez important de voir un petit peu le résultat de cette étude internationale. Alors bien sûr, cela nécessite bien évidemment une campagne de protection et de dépistage assez importante également, et à mettre en place d'une façon assez uniforme sur l'ensemble de la planète. Mais en tout cas, voilà, c'est assez prometteur, en tout cas, même si voilà, ça va être difficile d'atteindre une couverture vaccinale de 80% ou plus, même en quelques années dans le monde entier, parce qu'il va être compliqué d'administrer des doses de vaccins au bon moment et un petit peu partout dans le monde. Mais en tout cas, si cela se ce fait, on prédit, en tout cas cette étude internationale prédit donc la disparition à la fin du siècle du cancer du col de l'utérus. Assez prometteur, assez optimiste et à suivre bien sûr évidemment, ce qui serait assez intéressant. Allez, on va écouter encore un autre titre sur l'antenne de Graphite. On va écouter Gunwood sur Graphite et on se retrouve juste après. On va continuer comme ça à nous intéresser à ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier.
Before, it won't heal no pain. I'm even ready for more. All that is great shall be floating away along with the shore. Calling the rain to clean up my shirt. I'm not afraid of all the sickness and hurt. All of the grace shall be floating away along with the shore. They call me the rain child. They call me the rain child. I crawl in my bones, I'm blind in my sight, holding me down. Holding me tight, feeling your love like a motherless child. Songs that I sang, all that is great shall be floating away along with the shore. All that is great shall be floating away along with the shore. They call me the rain child. 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 They crawl in my bones and blind in my sight, holding me down and holding me tight, feeling your love like a motherless child.
When Child, c'était Gunwood sur l'antenne de Graphite. Ça fait partie également de son album sorti en janvier 2019. Et si on s'intéressait à Saturne, même si on se dit que Saturne, c'est facile à reconnaître parce que Saturne a des anneaux et on se dit que sans ces légendaires anneaux, Saturne on ne la reconnaîtrait plus. Pardon, je vais y arriver. Eh bien, c'est ce qui va être le cas en fait. La disparition des anneaux semble inéluctable pour Saturne dans environ 300 millions d'années. Bon, encore du temps devant nous, mais en tout cas, on considère qu'ils se seront volatilisés, les anneaux de Saturne. C'est ce qui ressort d'une nouvelle analyse des observations réalisées par James O'Donoghue de la NASA. Il a utilisé pour cela le télescope Keck qui est basé à Hawaï et il avait mesuré les taux d'infrarouge émis par l'ionosphère de Saturne. L'ionosphère, c'est la partie supérieure de son atmosphère et selon donc ses calculs, il estime aujourd'hui que la planète subit une pluie ininterrompue de particules de glace en provenance justement de ses anneaux, car ceux-ci sont eux-mêmes en permanence bombardés par des espèces de micro-météorites qui arrachent des électrons aux particules de glace qui les composent et comme elles sont chargées électriquement, ces particules deviennent alors sensibles aux puissants champs magnétiques de la planète géante, ce qui les draine jusqu'à cette fameuse ionosphère. Et c'est ainsi que 400 à 3000 kilos de glace tombent depuis les anneaux sur Saturne à chaque seconde. C'est quand même énorme et à ce rythme effréné, le stock sera vite épuisé. Même si nous ne comprenons pas encore très bien la physique des anneaux, eh bien cette nouvelle étude renforce l'idée de plus en plus partagée qu'ils sont éphémères. Et donc les anneaux de Saturne vont finir par disparaître. Donc eh bien, profitez-en, vous avez 300 millions d'années encore pour pouvoir les observer, mais après ça sera plus possible malheureusement. Si on retourne dans le temps, depuis plus de 2000 ans, eh bien, le mystère plane encore sur les conditions de la mort d'Alexandre le Grand. Certains pensent qu'il a pu être empoisonné ou qu'il a succombé à un excès d'alcool. D'autres incriminent le paludisme ou la typhoïde. Toujours est-il que la légende raconte que le corps de celui qui régna sur la Macédoine entre 356 et 323 avant Jésus-Christ est resté 6 jours sans montrer le moindre signe de décomposition. La preuve pour les Grecs de l'Antiquité qu'Alexandre le Grand était un dieu. Mais c'est une explication dont on ne pouvait se satisfaire, les scientifiques qui envisagent aujourd'hui une nouvelle théorie. Le plus grand conquérant de son époque pourrait bien avoir souffert d'un trouble auto-immunitaire rare qui l'aurait paralysé de la tête aux pieds et nous serions là face au cas le plus célèbre de faux diagnostic de décès jamais enregistré. Selon les historiens, Alexandre le Grand aurait d'abord ressenti des douleurs abdominales accompagnées de fièvre. Très vite, il se serait trouvé dans l'incapacité de marcher, de bouger puis de parler. Pourtant, son esprit serait resté vif jusqu'à sa mort. Il souffrait probablement d'une variante de la neuropathie axonale aiguë du syndrome de Guillain-Barré. C'est ce qui est estime le docteur Catherine Hall de l'université d'Otago, Nouvelle-Zélande, une maladie que l'on contracte généralement par une infection, une maladie dont il est surtout possible de se remettre. À l'époque, les diagnostics de décès reposaient essentiellement sur la respiration et non sur le pouls. Or, dans ces conditions, la respiration du roi de Macédoine a dû être si superficielle qu'elle en était indétectable. Son corps a pu avoir du mal à réguler sa température. Ses pupilles ont pu se dilater. Tout ça a conduit donc à une erreur de diagnostic. Et donc, il serait mort d'autre chose, Alexandre le Grand. On le sait, 2000 après. C'est cold case, mes enfants, en direct sur l'antenne de Graphite. Allez, on va écouter un dernier titre et puis on se quittera avec les dernières petites informations scientifiques de cette émission. À tout de suite.
J'aime les garçons qui courent sur place. Vont-ils dans le mur ou dans l'espace? Génération A, enchantée de nos positions. Démissionner. Longtemps je n'ai plus vu personne. Je trouvais les gens monotones. Relancer la fête, oui, mais comment faire si tout le monde est moderne, hyper oisif dans nos cavernes, de primitif moderne. Puisqu'on nous dit la paix, c'est la guerre, et qu'aujourd'hui y a tout pour sur les yeux de la veille. Ouvrons les yeux,
les primitifs, modernes, hyper oisifs, dans nos cavernes de primitifs, modernes, partout des shérifs, enfermes, les primitifs, modernes.
C'est le dernier album de la Maison Tellier, Primitif Moderne. Et là, on vient d'écouter bien, du coup le premier titre de cet album, Primitif Moderne, sur l'antenne de Graphite. Et il y a le maire de Pessac qui est assez enthousiasmé. Il dit que c'est fabuleux, on dirait même un trucage. Il parle en fait de ce qui se passe depuis quelques mois sur les 2 kilomètres de pistes cyclables qui traversent un sous-bois dans le quartier de Seige, donc à Pessac, nous sommes en Gironde, et qui se transforme ces 2 kilomètres en chemin lumineux la nuit tombée. Plus il fait noir, plus ça brille. C'est génial. C'est quoi le secret? Eh bien, c'est une peinture phosphorescente qui a été inventée par une start-up Holychrome et elle contient des pigments chimiques qui absorbent la lumière du soleil et la restituent la nuit. C'est ce qui explique Jean-François Létard, le fondateur donc de cette start-up. On voit la route se dessiner entre 50 et 100 mètres de plus qu'avec une signalisation traditionnelle. Et il est également ancien directeur de recherche à l'Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux. L'effet phosphorescent dure environ 10 heures, de quoi largement tenir bien sûr toute la nuit. La formule de la peinture est classée top secret bien sûr. La peinture phosphorescente, elle est à présent en cours d'homologation pour le marquage routier parce qu'on va pouvoir équiper tous les endroits à risque comme les passages piétons, les dodanes, les virages dangereux, les arrêts de bus ou les bretelles d'autoroute. C'est ce qu'explique Jean-François Létard. Idéal aussi dans les petits villages et routes de campagne souvent mal éclairées ou encore pour délimiter les places d'un parking. Le prix au litre est bien entendu plus élevé, mais cela ne peut pas se comparer avec une simple peinture blanche. Notre peinture permet d'éviter tous les frais d'infrastructure comme le câblage pour faire passer les fils électriques des lampadaires et le coût de l'électricité. Oui, effectivement, l'un dans l'autre, c'est vrai qu'au final, c'est peut-être rentable. En tout cas, la peinture phosphorescente n'est qu'un des nombreux produits mis au point justement par cette start-up qui fabrique toute une gamme de pigments spécialisés, des peintures et des revêtements industriels qui changent de couleur en présence d'un solvant ou d'un gaz, des encres qui réagissent à un changement de couleur ou à la pression. Et pour Safran, eh bien, cette start-up a ainsi développé des revêtements thermosensibles qui permettent de cartographier les températures de chaque composant d'un moteur en fonctionnement. C'est quand même assez bluffant. La couleur évolue en fonction des températures subies. C'est ça le principe. Airbus a de son côté demandé une peinture qui permet de localiser un choc sur l'ossature d'un avion, de quoi rendre l'inspection de la carlingue bien plus facile, bien sûr. La start-up songe d'ailleurs à étendre cette application à l'automobile, à l'éolien et au nautisme. Voilà, c'est en plein essor en ce moment et ça vient d'ouvrir son premier site de production, donc près de Pessac, en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine. Cette peinture qui éclaire les routes la nuit. C'est vrai que c'est une idée assez ingénieuse. Je ne suis pas allé à Pessac, mais j'irai peut-être voir ce que ça donne la nuit, parce que c'est vrai que ça va être assez bluffant de voir cette peinture phosphorescente qui absorbe donc la lumière, qui la restitue la nuit. Ça nous change un petit peu des étoiles qu'on avait, vous savez, sur le plafond de nos chambres, la nuit, ça éclairait comme ça. Et bien là, du coup, c'est le même principe, mais avec une peinture sur du bitume. À voir évidemment au niveau des applications par la suite. Allez, je vois qu'il a encore le temps d'écouter un dernier titre. Eh bien, on va se faire ça et on se retrouve juste après sur l'antenne de Graphite, bien sûr. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Si, alors, il faut juste que je mette en marche le bon moyen. Mais on va y arriver. Oui, ça, c'est du direct, ça, mes enfants. Allez, normalement, ça fonctionne sur l'antenne de Graphite. On se retrouve juste après. Wedge Racer, c'était The Banging Souls sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission Biotine. Tous les samedis, entre 12h et 13h, vous avez, je dirais, la chance d'avoir un animateur réel, même s'il ne vous voyez pas, mais vous savez qu'il existe et qu'il est fait de chair et d'os. Parce que là, en Chine, maintenant, il va falloir faire attention pour les présentateurs de JT, parce qu'il y a une intelligence artificielle qui a présenté pour la première fois un journal télévisé. Il y a eu un présentateur virtuel, en fait. Bon, il a fait que de réciter un discours, bien sûr. Les expressions du visage ont été produites par un algorithme. Il y a eu des intonations vocales qui sont quand même d'un réalisme assez impressionnant. Et donc, ce présentateur de JT a donc présenté son journal le 7 novembre 2018. C'est en Chine que ça se passe. Une première mondiale qui va faire date. Mais pour l'instant, sur Graphite, tous les animateurs sont bien réels, bien évidemment. Cet article, vous pouvez le voir sur Science et Vie, hein, sur ce présentateur virtuel, c'est assez effrayant, mais tout se passe bien pour l'instant sur Graphite. On est bien vivant et on est bien réel. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Merci de votre fidélité, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et on se retrouve mardi à 10h pour la rediffusion et samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission de Biotine. Merci à tous, à bientôt, au revoir.